las conferències de la 30a Universitat Occitana d'Estiu registrada e prepausada per Radio Languedoc. Francesc Paniella i Fareras nos presenta la conferència El sac de Marsella de 1423 i les cadenes del Portuel.
Sac de Marsillo de 1423 et la Scadena del Portuel.
Bonne tarde, bonsoir, bon après-midi. Premier, je pense qu'il faut que je me présente. Je suis Francesc Paniella, je suis le président du Cercle Catalan de Marseille. Et le Cercle Catalan de Marseille, c'est de ce côté-là qu'il va rentrer dans ce titre Terre d'accueil. Il a été fondé en 1918. L'origine de ce cercle catalan, c'est surtout des ouvriers de Barcelone, des zones industrielles, qui étaient venus à Marseille à raison des grandes grèves de 1909-1917, et ils se sont rencontrés vers la fin de la guerre 14-18 avec une partie des volontaires catalans qui étaient venus faire la grande guerre à côté des Français en répondant à l'appel de maréchal Joffre. Et en 1918, ils ont créé le Cercle Catalan de Marseille, et depuis, voilà, on est toujours là. Le Cercle Catalan de Marseille actuellement, qui s'étend un peu dans toute la région, même on a des membres du Cercle Catalan à Montpellier, à Nîmes, à Nice, etc. Il a 150 membres. Pour vous donner une illustration de la continuité dans les idées, c'est que le trésorier actuel, c'est la petite fille d'un des fondateurs. Donc dans ces 150 membres, nous avons un conseil d'administration de 11 membres, 6 femmes et 5 hommes. Et un autre détail que je pense que c'est très important, que la différence d'âge entre le plus âgé et le plus jeune, ça fait 50 ans dans le conseil d'administration. Et ensuite, on attend tout l'éventail d'âge. En plus, donc, je pense que demain, une des traductrices du catalan, Mercè Terradellas, c'est notre secrétaire, donc vous aurez l'occasion de vous apercevoir de visu de la différence d'âge entre elles. Le cercle catalan n'a jamais été neutre. Tout à l'heure, on parlait de l'attachement au pays où on réside. Je vais vous citer que 3 ou 4 noms, pour ne pas les citer tous. Par exemple, un des fils de fondateur, il est parti en septembre de 1939 de chez lui. Il est retourné en septembre 1945, autrement dit 5 ans de combat dans tous les fronts et engagé dans les corps francs. Et Antoni Aguilar, secrétaire du cercle, engagé volontaire dans l'armée française, il était fait prisonnier dans la ligne Maginot. D'ailleurs, il a fait un petit séjour dans un stalag, mais quand ils se sont rendus compte que c'était un étranger, les Allemands l'ont envoyé pendant 4 ans à Dachau. Je voudrais parler aussi de notre membre de notre cercle, qui a été secrétaire du cercle. Aujourd'hui, il s'approche de 90 ans, mais qui a participé à l'assaut de la prison de Nîmes, à la bataille de la Madeleine, sous les ordres de Cristino Garcia, fusillé par les franquistes. Et pour finir, pour ne pas faire tout un éventail, mon épouse, qui a 15 ans, dans la Drôme, servait de gens de liaison entre les marquis de la Drôme. Donc c'est pour ça que je vous dis, le cercle catalan n'a jamais été neutre. Disons qu'on a été côté de moi. Voilà. Bon, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, peut-être un peu décousu sur l'ensemble des choses, mais vous vous rendez compte que petit à petit, on trouvera les liens. La première fois qu'officiellement, on nous a demandé qu'on rende les chaînes de ce vieux port de Marseille. Ça a été 1994, à l'armée de Marseille. On avait fait une grande fête à Marseille, comme on fait toutes les années dans une capitale européenne. C'était le rassemblement de Sardane et de culture populaire. On avait reçu 50 et quelques cas. Et au moment de la réception officielle, un conseiller municipal, je ne sais pas si c'est à cause de la chaleur du pastis, il est venu nous dire « Quand c'est que vous nous rendrez les chaînes ?» Les fameuses chaînes. On a été très sensible à cette pétition. On a été très sensible à cette pétition parce que nous-mêmes, pendant des années, maintenant c'est résolu le problème, on a demandé qu'on nous retourne les papiers de Salamanque que les fascistes ils avaient emportés en 1939. Maintenant, ils sont en Catalogne. Donc, on comprend parfaitement ce que ça veut dire cette revendication. Et on a commencé donc à fouiller, voir ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait trouver. La première chose qu'on a vue, c'est qu'à partir de l'arrivée de Sanjou, l'entente qu'il y avait entre les Catalans et les Provençaux, c'est fini. Ça commence une longue période de guerre. On s'est rendu compte aussi d'une chose, quand on étudie l'histoire de France, que l'histoire de France s'arrête au nord de la Loire. Au sud, au midi, il n'y a rien passé. Et c'est étonnant. C'est étonnant. On a regardé sur Internet et on a eu l'impression, un petit peu, quand il s'agit de ces questions-là, de l'histoire, de notre histoire, que c'est un peu comme l'auberge espagnole. On y trouve ce qu'on y porte. Pour exemple, on a regardé sur Internet l'histoire de Marseille, parce que quelque chose de très important en 1286, 1348, et après on passe en 1524. 1423, sur l'histoire de Marseille, sur Internet, rien, zéro. Sur l'histoire de Provence, oui, on a trouvé que 1423, les Aragonais, ils avaient porté les chaînes. Ça, c'est marqué sur l'histoire de la Provence. C'est les Aragonais qui avaient porté les chaînes. Et on a regardé surtout, on s'est rendu compte qu'il y avait une reine, Yolande d'Aragon, qui avait joué un rôle très important et ignoré complètement pour l'historiographie française. Les historiens ne savent pas qui c'est. On a trouvé un livre édité en 1933, de Jeanne d'Orléac. On a trouvé quelque chose de Philippe Rengier en 1945, réédité en 1971, et après, plus rien. Mais quand on regarde au fond des choses, on sait, par exemple, que si la fameuse légende de Jeanne d'Arc a eu lieu, c'est parce que derrière, avec les armes, l'argent, il y avait Yolande d'Aragon, la reine de Provence, la mère du roi René. Sinon, Yolande, Jeanne d'Arc aurait été simplement un mythe, c'est ça qu'elle a été. Et si Jeanne d'Arc entendait de voix, Yolande d'Aragon, il avait des idées très précises, mettre sur le trône de France son beau-fils Charles VII. Et s'est servi de cette légende, comme dans toute la histoire de tous les pays, il y a des légendes, pour obtenir ses fins. Et une fois ses fins obtenues, il a laissé tomber Jeanne d'Arc, qu'on a fini comme nous tous savons. De Jeanne d'Arc, on a fait des films, on a fait des livres, on a fait des histoires, on a fait des romans, des pièces de théâtre, même des opéras. Yolande d'Aragon, qui a joué un grand rôle, non seulement en Provence, mais dans la constitution du royaume de France, ignorée complètement pour les historiens français. Et voilà donc, grosso modo, et nos recherches dont nous ont porté à ces fameuses chaînes qui sont exposées à la cathédrale de Valence, voyez là-bas au fond, et qui sont, d'une façon très ostensible, livrées au regard du public. Et je ne vais pas dire que les Français, quand ils visitent la cathédrale de Valence, sûrement le pape actuel est allé la voir aussi. Donc, voilà notre fameux litige. J'ai parlé tout à l'heure du rôle de Yolande d'Aragon, il ne faut pas oublier la mère du roi René, et précisément cette cause d'elle, ou à cause de son mariage, qu'on a eu ces problèmes de bataille fratricide entre les Catalans et les Provençaux. Je vous disais tout à l'heure qu'avec l'arrivée de Saint-Just, c'est fini l'amitié entre Provence et Catalogne, parce que dans le fond, derrière la rivalité, il y avait la domination de la Méditerranée, la domination de Naples, Sicile, enfin tout ce que c'était le grand commerce. Et pour mettre un terme à ces rivalités, les comtes de Provence et les rois de Catalogne s'étaient mis d'accord pour qu'il y ait le mariage de Yolande avec un des Anjous, mariage qui a lieu à Arles en 1400. Nous voyons donc la descendance des rois catalans avec tout à fait roche. Le mariage de Violan, catalan, Yolande, avec Louis II de Naples. Donc, le mariage, il a eu lieu en 1400. Yolande, elle a resté veuve très jeune. Après 17 ans de mariage, elle a resté veuve. C'est elle qui a régenté la Provence. Mais il va se produire un fait extraordinaire, c'est que, à la mort de son père, c'est son frère Martiroma qui prend le pouvoir, Catalogne, qui est roi. Parce qu'au moment du mariage de Yolande d'Aragon avec Louis II de Naples, il a signé comme quoi il a renoncé pour toujours au trône de la Catalogne. Martiroma, il meurt en 1410, sans descendance masculine. Et là se pose le problème. Et nous avons encadré tous les prétendants au trône de la Catalogne. Et je vous dis, il n'y avait pas que la Catalogne. Il y avait l'Aragon, il y avait Valence, il y avait le Baléares, il y avait la Sicile, Sardaigne, le royaume de Naples. Et comme chose naturelle, Yolande réclame le trône de Catalogne pour lui, toi, son fils. Et vous voyez que tous ils avaient pratiquement les mêmes droits. Et même on trouve des mariages un peu bizarres entre cousins et oncles, pratiquement, comme il se faisait à l'époque. Et il y a pratiquement une guerre civile en Catalogne. Il faut dire que Rome prend tout de suite position pour la branche castillane, pour les Antequera. Ces Catalans qui avaient reçu les albigeois, qui avaient fait la sourde oreille pour expulser les Juifs, ils n'étaient pas trop catholiques, son goût, il a pris parti par Ferrand d'Antequera. Les autres prétendants, petit à petit, ils ont parti de la scène politique. Le fils naturel, ou le petit-fils naturel de Martiroma, il a l'appui du pape à l'une, il ne faut pas oublier qu'il y avait le schisme dans l'église en ce moment-là, on avait trois papes, un à Rome, un à Avignon et l'autre Peñíscola à Valence. Mais à mesure que les choses avancent et ils prennent le gilet de l'ardeur, l'église, sous les ordres de Rome, laisse tomber les autres prétendants et l'appuie surtout Ferrand d'Antequera. Et on se trouve avec trois partis, Jaume d'Urgell, Ferrand d'Antequera, c'est la guerre civile, et la Provence, une guerre aux frontières, dont Angers, Naples, Sicile et Sardaigne. Il faut dire que le maire de Yolande crée un parti, le parti français, qu'ils appellent en Catalogne, qui a une très grande puissance, qui s'appuie surtout avec la petite et moyenne bourgeoisie. Jaume d'Urgell, il s'appuie surtout avec la bourgeoisie des intérieurs de la terre, les grands seigneurs féodaux, et Ferrand d'Antequera s'appuie surtout avec l'Église et surtout aussi avec la grande bourgeoisie de Barcelone. Ces rivalités ils vont être faites dans ce qu'on appelle le compromis de Caspe, qu'il y a trois représentants de Valence, trois de Catalogne, trois de l'Aragon, bien sûr, l'Église, tous les représentants de l'Église, que ce soit que des Catalans, des Aragonais ou des Valenciens, ils votent pour Ferrand d'Antequera. Et Ferrand d'Antequera obtient 6 voix contre 2, son rival direct, Jaume d'Urgell, qui se révèle, se révolte. Il est fait prisonnier dans son château de Balaguer. Il est enfermé à Valence. Il meurt dans des circonstances mystérieuses à Valence. Donc, fin de la guerre civile, intronisation de la branche castillane ou aragonaise dans le trône de la Catalogne, mais guerre à la Méditerranée entre la Catalogne et la Provence. Donc, je vous dis, l'origine, ça c'est donc, le mariage de Yolande, d'Aragon, et il réclame toujours le trône. Quelle était la situation à cette époque-là? Voyez ici, je pense qu'on voit les vrais enjeux. D'un côté, une grande puissance méditerranée, l'Aragon, avec toute pleine de possessions ou de comptoirs. Et le jour de son départ, 1420, date d'Osalfac à Valence, pour aller en Sardaigne, pour mettre de l'ordre, aller en Corse, aller en Sicile, et aller à Milan. Où les troupes françaises, les troupes de Provence, ils ont lancé une grande offensive pour prendre la ville de Milan, où il y a, en la défendant, le frère du roi. Et ils arrivent à prendre la ville, pas le château, mais si la ville. Au moment de retour, Alphonse le Magnanime, en ce moment-là, roi de la Catalogne, s'arrête un peu en Italie, et il arrive à la conclusion qu'en tenant compte que les plus gros de force de la Provence sont à Naples, forcément, la Provence les dégarnit. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à s'installer le mois de novembre 1423, dans les îles du Frioul, où il se restaure, prend des forces, il commence le sac et l'attaque de Marseille. Voilà une reproduction à peu près de Marseille de cette époque-là. Le tour de Warenne actuellement, le tour carré, où il y avait les chaînes. De l'autre côté, le commencement où il y aura les forces à Nicolas plus tard. Les phares. Effectivement, Marseille se trouvait pratiquement dégarni. Il y avait ce qu'ils appelaient les 6 hommes de la guerre, c'était des commerçants. Ils avaient la défense de différents points de passage ou d'entrée de Marseille. Et les 9 d'Alphonse le Magnanime se pointent là et commencent l'attaque de Marseille. Ceux qui connaissent un peu la ville ou les alentours, il faut penser que l'état-major il se situe au palais du Faro. Les forces les plus importantes, ils débarquent à Rennes et coupent automatiquement la route d'Aix. Non seulement pour qu'ils arrivent des renforts, mais pour que les gens ne puissent pas sortir. Une autre partie des forces, ils débarquent, c'est que sera plus tard la plage des Catalans, pour attaquer Saint-Victor. Et ironie de l'histoire, on trouve, en défendant Marseille, dans cette zone-là, qui n'est pas fortifiée, un commerçant catalan, Normater, père de la Barrerie, que pour ses conditions de commerçant, on lui a donné la défense de ce secteur qui va de la ville de Saint-Victor jusqu'à l'entrée royale qui se situe en ce moment-là où il commence la canavière, tout près de l'église des Agustins. Tout à fait en bas, il y avait l'entrée royale. Donc cette partie-là, elle est donnée en défense à ses pères de la Barrerie, qu'ensuite il sera, il y aura un procès, parce que soi-disant il a abandonné son poste, quand le pauvre il a fait tout ce qu'il a vu. Autrement dit, on trouve là aussi, catalan contre catalan, parce que lui, ce qu'il défendait, c'est sa ville. Parce que c'est des gens qui étaient venus avec le roi catalan ou le comte catalan beaucoup plus avant. Donc, il s'appuie de l'attaque de la ville, il rentre d'une façon fortuite, il profite d'une vieille barque de pêcheurs pour entrer pour casser les chaînes, en cassant une partie des chaînes, c'est celle qu'ils ont emportée à Valence. Ils peuvent rentrer facilement dans le pont, et là, il commence le sac qui va durer 3 jours. 3 jours de sac, de pillage. Il faut dire aussi que, vu le peu de force qu'il avait à Marseille pour se défendre, il n'y a pas une résistance farouche qui s'est faite. Les moines de Saint-Bernard Saint-Victor, quand ils ont vu la première attaque, ils sont partis en courant avec les troupes qu'il y avait. De ce fait, faire de la barrerie, ces Catalans qui défendaient ces côtés-là, ils se trouvaient complètement désemparés. Et petit à petit, il a reculé jusqu'à la porte royale. Et il a donné l'idée au viguier de Marseille de couler un bateau à l'entrée du port. Comme ça, les nefs, ils ne pouvaient pas rentrer. Chose qu'ils ont fait, ils ont pu couler un bateau dans une partie, mais ça a été trop tard pour couler un deuxième bateau dans l'autre partie, sinon ils n'auraient pas pu rentrer. Il faut dire qu'à cette époque-là, on a trouvé une Bible papale, il y avait à Marseille 7000 maisons. Pendant le siège et le sac, il y a eu 4000 maisons brûlées. Voyez un peu l'étendue du désastre. Et économiquement, par la suite, Marseille a beaucoup souffert parce qu'il a fallu de très très longues années pour remettre tout en place et surtout que le port il prenne l'importance qu'il a actuellement ou qu'il avait à l'époque. Il faut dire qu'ils avaient appelé aide à Aix, mais Aix aussi, le problème c'est que la plupart des forces ils étaient partis à Naples et quand ils arrivent à la force d'Aix, Aix, il y avait le Parlement. Il y avait le gouvernement, c'était pas Marseille, Marseille c'était une ville, c'est tout. Donc, pratiquement, le pillage se fait non seulement pour les soldats ou la soldatesque, sinon pour certains maraudeurs de la ville, ils sont masquerades parce qu'ils étaient cachés la figure, qui ils continuent le pillage qu'ils avaient fait les Catalans. Donc, ils emportent ces fameuses chaînes et ils emportent les reliques de Saint-Louis, patron de la ville, et avec de Toulouse. Voilà donc, grosso modo, c'est que ça a été ce fameux sac de Marseille. Et on se trouve que pendant, je dirais, 400 siècles, personne n'a parlé de chaînes de Marseille. Enfin, Paris s'en foutait comme dans la mille, comme tu vois. Et pourtant, Napoléon a été maître de l'Espagne avec son frère, roi d'Espagne, José Pepe Botella, comme il appelait les Castillans, parce qu'il paraît qu'il appréciait beaucoup les crous castillans, et souvent il était pas entre deux eaux, plutôt entre deux vins. C'est pour ça qu'il appelait Pepe Botella. Donc ensuite, on a l'invasion de 5000 fils de Saint-Louis en 1823, et c'est jamais question de chaînes de Marseille, pourtant ils avaient l'occasion, ils ont emporté d'autres choses, ils ont emporté des tableaux de maîtres du musée de Pardes. Les chaînes de Marseille, c'était Marseille et la Provence, c'est super des choses. Et la première demande officielle qu'on trouve des chaînes de Marseille, il provient de Frédéric Mistral. Mais cette lettre date du début du siècle, de 1906 ou 1907. 1907. Et l'Escola de la Marque, quelques-uns de vous autres, vous avez entendu parler. Mais Mistral, c'est curieux, il ne s'adresse pas au poète catalan. Il s'adresse à un intellectuel valencien. Il ne s'adresse pas au poète catalan, ni aux intellectuels catalans, parce qu'il y avait eu déjà la rupture entre les catalans, je dirais le Provençal. Les catalans, ils se tournaient vers l'avenir. À cette époque-là, il y a eu des faits assez marquants, à Barcelone surtout, des faits révolutionnaires, je disais, des grandes secousses menées par la classe ouvrière. Et il s'adresse au poète valencien Théodore Llorente, que je dirais, il avait le même point de vue conservateur que Mistral, puisqu'il défendait la pureté de la langue valencienne en front de la langue catalane, qu'il est député au Parlement de l'État pour les partis conservateurs. Donc il n'avait rien, quelqu'un qui pourrait faire appel à Mistral. Donc Mistral s'adresse à ce monsieur et lui répond effectivement que c'était un peu... Et regardez la dernière phrase, je pense que c'est assez important. Valence ferait une chose avec joie. Il a rendu à Marseille les corps de Saint-Louis, l'évêque de Marseille. C'était le patron de Marseille, il a été évêque de Toulouse. Que le même roi importa. Aussi, un échange de celui de Saint-Vicent Ferrer, c'est un saint valencien, un de ceux qui ont voté contre le roi catalan, qui se trouve à Vannes, où il mourut. Mais cela soulevait du côté de la France de grandes difficultés. Et c'est le député Théodore Llorente qui lui envoie cette lettre. Voilà, donc les chaînes 1907 sont toujours à Valence, les reliques de Saint-Louis sont toujours à Valence, et il faut qu'on trouve ce fameux conseiller municipal, comme je vous dis tout à l'heure, qui nous dit qu'il faut nous rendre les chaînes. Et on commence à faire des gestions. Et là, on s'est trouvé un petit peu, je crois que c'est l'année dernière, que c'est le centenaire du Quichotte, les 500 ans du Quichotte. Quand Quichotte il dit cette fameuse phrase, « Con la iglesia hemos topado, Sancho amigo. » Eh bien, on s'est heurté, encore une fois, avec l'Église. Pour faire les choses comme il faut, on s'est adressé à tous les parlements autonomes actuels, c'est pour ça que vous voyez qu'on revient à l'actualité à travers les chaînes, qu'ils formaient à l'époque la couronne de Catalogne et Aragon. Donc l'Aragon, Valence, Balear et la Catalogne. Jordi Pujol Nous avons écrit. Voilà complètement d'accord. Mais qu'il faudrait aussi voir au président Zaplana, à ce moment il était le président, pour faire avancer les choses. La même réponse on a eu du Parlement d'Aragon, la même réponse on a eu de celui de Valéa, mais peut-être le plus significatif, c'était celle qu'on a reçue du Parlement de Valence. Corse valenciana, ce Parlement catalan, Hector Villar-Vizquilivella, c'était le président de Valavo-Puerarino, et qu'ils étaient tous prêts à nous aider, mais qu'il fallait s'adresser aux propriétaires de ces chaînes, parce que notre roi, le roi d'Aragon, Alphonse Magnanime, quand il est arrivé à Barcelone, enfin, plus bas de Barcelone, il a offert ces chaînes à la cathédrale de Valence, où ils sont toujours. Et bon, comme des gens, ils n'ont perdu rien, on s'est adressé à l'évêque de Valence. Voilà. Et on a reçu la réponse de l'évêque de Valence, et on a eu l'impression qu'on se trouvait en 1423. C'est pour ça que je vous ai cité tout à l'heure la phrase de Don Quichotte con la Iglesia hemos topado. Parce que nous on disait, puisque, après on en parlera, vous avez rendu déjà une partie de reliques, puisqu'on ne ferait pas pareil, est-ce que vous ne pouvez pas rendre deux ou trois maillons de ces chaînes? Et dans cet élan d'universalité, de création de l'Europe, de fraternité entre les peuples, ça serait quelque chose d'extraordinaire que la cathédrale de Valence, avec des représentants de l'Aragon, de la Catalogne, de Balear, viennent apporter ce qu'ils ont pris il y a 500 ans. Voilà donc qui nous dit, la chaîne, c'est le roi qui nous l'a donné, on le garde. Donc, voyez-vous, non, une fois de plus, cet esprit de partage est extraordinaire. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Et on se trouve avec ce problème. Mais, on a rendu les reliques. Reliques, enfin, pas toutes. On s'est amusé ici à la vertèbre de Saint-Louis. Et on les a rendues à Marseille. Et c'est passé ça en 1956. Pourquoi on a attendu 1956 pour rendre les reliques de Saint-Louis à Marseille? Vous savez tous comme moi que le régime de Franco, pendant de longues années, il a été banni de scène internationale. En 1953, on a la réactualisation du concordat avec le Vatican. En 1953, il y a le pacte franco-américain avec lequel Franco y rentre nous, mais à condition qu'on donne 3, 4, 5 bases qui sont toujours aux Américains. Et pour faire bonne mine, en 1956, donc, on rend deux vertèbres. Je me demande comment ils ont fait pour le signer, mais enfin, ça m'a foulé le chair de poule quand je pense à ces choses-là. On rentre, et attention, pas d'une façon discrète, il y a les évêques de Valence, il y a tout, enfin, presque le papauté qui vient, les consuls, les ministres, c'est une grande fête pour rendre ces deux vertèbres. Et ils sont exposés, ces deux vertèbres, enfin, ils étaient exposés parce que je crois qu'ils ont piqué. C'est pas qui. Ils sont exposés à cette église de Saint-Ferréol des Augustins qui est en bas au Vieux-Port. Et là, encore, on s'est trouvé, encore une fois, avec le mensonge enfin, de cette église, je ne dirais pas de toute l'église au général. Ils ont fait une grande plaque aux côtés de vertèbres et il y a deux péchés. Un, disons, un péché mignon. L'autre, c'est un péché intentionnel. Le péché mignon, c'est qu'il y a une faute d'orthographe. Mais c'est énorme. Archevêché, il manque une syllabe. Je suppose que c'est un, disons, se rentre dans le domaine de péché véniel, ça, non? Donc, voilà. Mais l'autre, elle est très intentionnée. Lorsque, je vous cite comme ça de mémoire, lorsque 1423, les Espagnols, ils ont pris les chaînes de Marseille, aux ordres du roi d'Aragon, Primo. En 1423, il n'y avait pas d'Espagnol, il y avait des Castillans, pas d'Espagnol. Il y avait la Castilla, il y avait la Catalogne, il y avait Grenada, il y avait le Pays Basque, il y avait le Portugal. Donc, toute cette opération, elle est faite avec l'intention très marquée de on ignore surtout que c'est les Catalans qui ont pris ces chaînes. Parce que dans l'esprit des gens anciens de Marseille, il y a encore, quand ils te lancent une maldition, un mauvais sort, ils disent, je te souhaite que le peste des Catalans soit sur toi. Donc, ça veut dire que ça a resté. Donc, voilà, grosso modo, l'histoire des chaînes de Catalans. Les chaînes, ces chaînes qui sont toujours à Valence, très bien gardées à la chapelle, à la cathédrale, qui ne veulent pas rendre, malgré nos multiples démarches, mais on ne désespère pas. On a eu le papier de Salamanque, pourquoi on n'a pas les chaînes de Vieux-Port. Voilà. Thank you.
Les conférences de la trentaine Universitat Occitana d'Estiu registrées et préposées par Radio Languedoc. El sac de Marsella de 1423 i les cadenes de Portuel, prepausat pel senyor Francesc Panyela i Fareras.